Toujours à Durban, en Afrique du Sud, la réunion annuelle du plan présidentiel américain d'aide d'urgence à la lutte contre le sida, plus connu comme PEPFAR. Nathalie Barge a joint le docteur Marcel Yotebieng, chercheur pour le PEPFAR.
Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes de déperdition le long des différentes étapes, depuis son enregistrement aux consultations prénatales jusqu'à la fin de l'exposition du risque de transmission. Et nous recherchons à l'heure actuelle des voies et moyens pour diminuer cette perte de vue le long de la cascade. Précédemment, avec des financements de PEPFAR à travers l'Institut national de la santé des États-Unis, nous avons évalué ici l'utilisation des transferts monétaires conditionnels, mais on était encore à 80% de femmes retenues le long de la chaîne des soins, ce qui indiquait qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, notamment les problèmes de la qualité des soins dans les structures.
Est-ce que ces soins sont gratuits?
Dans les pays appuyés par PEPFAR, qui est le programme d'urgence du président américain pour la lutte contre le VIH, les soins sont généralement gratuits. Dans les 21 pays en Afrique subsaharienne dits prioritaires, par l'ONU-SIDA, puisque ces pays regorgent plus de 80% des femmes enceintes VIH positives. Généralement, ces pays sont appuyés par PEPFAR et les soins sont gratuits.
Dans l'étude justement de PEPFAR sur ce sujet, il est dit « Nous avons les outils en ce moment pour réduire l'incidence des nouvelles infections, mais nous avons besoin d'appliquer ces outils de manière plus efficace. » Que voulez-vous dire par là ?
Cela veut dire que nous avons des traitements qui permettent de réduire la transmission de la mère à l'enfant à moins de 1%. Mais quand on regarde les statistiques qui viennent de ces différents pays, les 21 pays que je viens de mentionner au sud du Sahara, on est loin du compte.
Quels sont les obstacles justement à ce bon fonctionnement?
Le premier obstacle, c'est que quand les femmes viennent en consultation prénatale, là où elles sont diagnostiquées, parfois elles ne reviennent pas à accoucher dans la même structure. Mmh. Ou elle accouche dans la même structure et après quitte la structure pour aller ailleurs. Ce qui veut dire donc que quand elles ne reviennent pas, elles ne sont plus sous traitement. Et si elles ne sont plus sous traitement, le risque de transmettre le VIH chez leur enfant devient élevé. Les cliniques là où elles vont accoucher, où elles ont quitté, si ces cliniques n'ont pas de service de VIH, si ceux qui sont là ne prennent pas la peine de la tester à nouveau, c'est là où on a des déperditions sans que personne ne sache qu'elle est VIH positive.
Comment procédez-vous aussi pour pouvoir amener toutes les femmes à se faire tester?
Le protocole à l'heure actuelle dans la plupart des pays, c'est que toute femme qui vient en consultation prénatale est testée. Mm-hmm. Mais généralement, après ça, les femmes qui, malgré que l'OMS le recommande pour des raisons diverses, les femmes qui viennent après l'accouchement dans les services de soins de santé maternelle et infantile ne sont généralement pas retestées.
Si on reçoit une femme qui va accoucher dans un centre médical, elle est sur le point d'accoucher, on ne sait pas si elle est séropositive ou non, comment procède-t-on?
Pour le moment, le protocole demande de la tester si elle est en salle d'accouchement. Parce que le risque pour une mère de transmettre le virus à son enfant est le plus élevé au moment du travail et de l'accouchement. Et dans la plupart des structures qui ont les services de prévention de transmission mère-enfant, les personnels des salles d'accouchement sont formés pour tester les femmes qui arrivent en salle d'accouchement sans que leur statut VIH soit connu. Et si ces femmes sont positives, ils ont généralement les médicaments sur place pour commencer le traitement immédiatement.
Et est-ce qu'il n'est pas trop tard à ce moment-là?
Bien évidemment, il est trop tard. Pour vraiment atteindre les objectifs de moins de 5% de transmission pour les femmes enceintes, ou de moins de 2% de transmission à 6 semaines, ou pour les femmes qui n'allaitent pas, il faut commencer le traitement avant la 14e semaine de grossesse et rester sur ce traitement.
Qu'est-ce que vous préconisez comme méthode innovante pour parfaire, cette situation de femmes qui ont le sida et qui risquent de transmettre cette maladie à leur futur nouveau-né?
Dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne, particulièrement les systèmes de soins maternels et infantiles, ont été conçus pour fournir des soins ponctuels. Et le VIH tel qu'il doit être géré sont des soins chroniques qui demandent à revoir la patiente tous les jours. C'est que il n'y a pas de bâton magique pour pouvoir faire cela. C'est une combinaison d'interventions qui vont permettre de pouvoir améliorer la rétention des femmes et atteindre les objectifs que l'Assemblée des Nations Unies s'est fixé pour l'élimination du VIH pédiatrique.
Marcel Liotébien, professeur de santé publique à l'Université d'État de l'Ohio. Toujours à propos de la conférence de Durban, il en ressort que les jeunes d'Afrique subsaharienne sont sexuellement actifs de plus en plus tôt. D'après des participants, cela peut expliquer le fort taux d'infection au VIH chez les adolescents, comme en Afrique du Sud, où les jeunes filles sont les plus touchées. Nathalie Barge s'est entretenue avec le docteur Eric Zogo, expert VIH-Sida.
Il y a une méthode en anglais qu'on appelait ABC, où on parle de l'abstinence, on dit be faithful, c'est-à-dire qu'il faut être la fidélité, et puis le C qui signifie condoms ou le préservatif. Alors, sur cette vieille ou traditionnelle façon de provenir ABC, il y a aujourd'hui, on a développé de nouvelles stratégies, dont en priorité les circoncisions médicales chez les hommes. Et on est en train de focaliser aujourd'hui l'âge de 15 à 29 ans chez les hommes. Mmh. Et on a trouvé qu'en circoncisant les hommes entre l'âge de 15 à 29 ans, on diminue la transmission du sida jusqu'à 60%. On nous a présenté une étude faite au Kenya qui a prouvé que sensibiliser les partenaires femmes ou les adolescentes sur les bienfaits de la circoncision masculine a montré le changement dans le comportement des adolescents garçons.
Il est dit qu'il faut passer donc par les filles, c'est cela?
Entre autres, sensibiliser les garçons eux-mêmes, mais aussi utiliser leurs futurs partenaires. Il y a des statements de certaines filles. Il dit, moi, je n'aurai pas une relation avec un jeune qui est incirconcis parce qu'il est moins hygiénique, parce qu'il est vecteur d'infections sexuellement transmissibles. Alors, des statements comme ça poussent les garçons adolescents à pouvoir aller rapidement se faire circoncire. Et je l'ai dit au début qu'il a été prouvé que la circoncision médicale pratiquée chez les garçons réduisait la transmission des VIH à 60%.
Mais est-ce que vous rencontrez des réticences dans certains pays d'Afrique par rapport à ça, la circoncision?
Ça dépend des cultures. Ici, on est en train de vulgariser des circoncisions faites par un personnel médical, c'est-à-dire des circoncisions qui n'ont pas d'effet secondaire majeur.
L'expert VIH-Sida, Eric Zogo, était en ligne depuis Durban. Voyons maintenant comment se déroule la prise en charge des malades du VIH-Sida en Afrique subsaharienne. Pour cela, partons au Niger, un pays où le taux de séroprévalence est de 0,4%. Au centre de traitement ambulatoire de Niamey, certains antirétroviraux sont insuffisants pour une catégorie de malades. La sonnette d'alarme est tirée, comme nous allons l'entendre dans ce reportage que nous propose notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Cette jeune patiente est venue au centre de traitement ambulatoire de Niamey pour prendre ses médicaments. Elle explique qu'elle est patiente de la deuxième ligne, c'est-à-dire ceux sur qui les premiers produits n'ont pas eu d'effet. Elle explique qu'avant, le centre mettait à leur disposition les antirétroviraux pour une période d'au moins 3 mois. La dernière fois, cependant, qu'elle est venue, elle n'a reçu que pour un seul mois. Ce matin, avant d'entrer chez le médecin, elle s'inquiète qu'il n'en soit pas ainsi aussi cette fois-ci. Depuis quelque temps, en effet, on parle d'insuffisance des molécules pour les patientes de cette deuxième ligne. Le président du réseau nigérien des personnes vivant avec le VIH-Sida interpelle les autorités sanitaires du pays. Aboubakar Al-Husseini Mega.
Nous ne pouvons nous adresser qu'aux autorités qui ont en charge la santé au Niger, particulièrement la coordination intersectorielle de lutte contre le sida, à ce que nous sachions qu'il y a suffisamment de ressources financières mobilisées dans ce pays aujourd'hui pour lutter contre le sida, qui normalement, jusqu'en 2018, ce genre de problème, on ne devait même pas les entendre.
Le responsable du centre indique que le stock des produits insuffisants peut tenir jusqu'en septembre prochain. Il ignore cependant si une nouvelle commande a été lancée, même s'il a fait son devoir, celui d'informer la hiérarchie. Docteur Nuhu Yakuba.
Les patients, pour l'instant,
Ils ont ce qu'ils veulent de nous, mais il y a quelques difficultés des médicaments, donc il y a certaines molécules qu'on n'y en a pas assez. C'est vrai, on ne peut pas parler de rupture, mais si on ne fait pas attention, peut-être on tend vers là. Les responsables de prise en charge du ministère de la Santé sont informés de cette insuffisance-là. Je pense qu'ils aussi, à leur niveau, ont remonté l'information. Maintenant, les partenaires, bon, peut-être ils sont au courant, mais dans ce qui est sûr, il y a des autorités au-dessus de nous qui sont chargées vraiment de bien mener ce dossier-là.
Le centre de traitement ambulatoire du Niger a été créé en 2003 avec l'appui des partenaires du gouvernement. L'équipe pluridisciplinaire qui l'anime manque par exemple depuis des années d'un psychologue. Le responsable est convaincu que si les partenaires se retirent, il sera difficile pour le centre de fonctionner normalement, même si la séroprévalence est en baisse dans le pays. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Paludisme et cette crainte qu'une souche résistante aux médicaments, actuellement en Asie du Sud-Est, puisse se propager à l'Afrique. L'Afrique qui représente 88% des cas de paludisme dans le monde. Récemment, des experts de santé se sont réunis à Dakar, au Sénégal, pour discuter de la question. Tatiana Moussou.
Le nombre de nouveaux cas de paludisme a chuté de 42% en Afrique depuis l'an 2000. Une grande partie de ce succès est due à des moustiquaires imprégnés, la pulvérisation à l'intérieur des maisons, ainsi qu'un meilleur accès à des traitements efficaces. Mais ce progrès pourrait être déraillé par une nouvelle souche de paludisme résistant aux médicaments actuellement en Asie. Abdoulaye Djimbé est le chef de l'unité d'épidémiologie et de la résistance aux médicaments moléculaires au Centre de recherche et de formation sur le paludisme au Mali.
Nous
devrions être inquiets compte tenu de l'interconnexion fréquente entre l'Asie et l'Afrique. Vous avez des vols directs à partir de presque partout de l'Afrique. Il y a le risque d'importation de ces parasites résistants. Il est plus élevé aujourd'hui. Dans les années 70, des millions d'Africains ont contracté le paludisme résistant au principal médicament de l'époque, la chloroquine. Les résultats en Afrique ont été catastrophiques. L'année dernière, 5 pays d'Asie du Sud-Est ont signalé des cas de paludisme résistant au dernier traitement, les thérapies combinées à base d'artémycine ou ACT. Eunice Miziani est au programme national de lutte contre le paludisme en Afrique du Sud. Nous devons être vigilants afin que ce qui est arrivé à la résistance à la chloroquine ne nous rattrape pas. Nous devons nous assurer que nous effectuons les normes d'essai d'efficacité sur une base régulière, tous les 2 à 3 ans. Les médicaments contrefaits continuent d'être un gros problème en Afrique. Les faux médicaments, alors que moins chers, ont souvent des niveaux inférieurs d'ingrédients pharmaceutiques actifs, qui peuvent conduire à la résistance aux médicaments au fil du temps. Amener les gens à compléter le régime de traitement est également difficile. Beaucoup arrêtent de prendre des comprimés, après un jour ou deux, une fois qu'ils commencent à se sentir mieux. Hans Rietveld est le directeur de l'accès au marché du producteur de médicaments suisse Novartis Malaria Initiative. Il dit que les médecins en Afrique prescrivent trop souvent les médicaments antipaludéens. Tout d'abord, assurez-vous qu'il y ait un diagnostic adéquat avant de faire le début du traitement. Donc vous voulez vraiment être sûr que le patient a vraiment le paludisme et seulement donner le médicament. Et cela est un problème dans de nombreux pays où la pratique de diagnostic avant le traitement n'a pas encore été intégrée dans la pratique médicale normale. Des études montrent qu'environ 40 à 60% des cas traités comme étant le paludisme en Afrique ne sont pas réellement du paludisme. Rietveld pense qu'étendre l'utilisation des tests de diagnostic rapide en Afrique pourrait empêcher un traitement excessif. Les tests à domicile peuvent diagnostiquer le paludisme avec une piqûre au doigt. Novartis affirme qu'il y a maintenant 2 nouveaux médicaments potentiels qui traitent le paludisme différemment. Mais l'arrivée de ces nouveaux médicaments sur le marché va prendre au moins quelques années.
Vous êtes à l'écoute de Carrefour, votre magazine sur les sciences et la santé. Jacques Aristide, toujours avec vous depuis New York. Parlons de l'oncosarcose à présent. encore connue sous le nom de cécité des rivières. L'onchocercose est une maladie parasitaire causée par le ver filaire Onchocerca volvulus. Elle est transmise par les piqûres des mouches infectées de l'espèce Similium, qui se reproduisent dans les ruisseaux et rivières au cours rapide. L'onchocercose est une cause majeure de cécité dans beaucoup de pays africains. Selon l'OMS, environ 500 000 de personnes sont aveugles ou atteintes de troubles de la vision à cause de la maladie. L'onchocercose cause également une vilaine maladie de la peau qui se manifeste par la dépigmentation et des démangeaisons persistantes et insupportables. Mais une bonne nouvelle dans la lutte contre la maladie, elle est en recul. Et récemment, à Ouagadougou, l'Afrique a célébré le succès de la lutte contre l'onchocercose. Depuis la capitale, la Burkinabé, la correspondance de Zoumana Wonogo.
Tous ici pour célébrer le succès de la lutte contre l'onchocercose réalisé par successivement le programme de lutte contre l'onchocercose OCP et le programme africain de lutte contre l'onchocercose EPOC. Deux programmes de santé publique qui font la fierté de l'Afrique.
C'est par ces mots que la directrice régionale pour l'Afrique de l'OMS, Dr Moeti Matshidiso, a planté le décor des 40 ans de lutte contre l'onchocercose ou cécité des rivières. Suivant, avec le docteur François Drabo du Burkina Faso, la dangerosité de l'onchocercose.
La simuli, le vecteur de la maladie, vit là où il y a l'eau et là où l'eau circule à un courant rapide. La complication majeure, l'évolution à long terme de la maladie, c'est la cécité. Il y a des phases intermédiaires où ce sont des lésions de grattage, ce sont des boutons, des nodules qui apparaissent sur le corps, sur les fesses, sur le front parfois. C'est la peau qui change de couleur. La peau qui se remanie donne l'aspect de peau de lézard.
La célébration du succès sur l'onchocercose signifie-t-elle que le Faso est exempt de ce mal? L'agent de santé communautaire DA pense que non. On l'écoute.
Nous sommes là pour fêter la fin, mais pour nous, ce n'est pas la fin, mais c'est toujours une continuité. Ça rend malade. La population en droit devient aveugle. Il ne peut plus rien faire. Elle ne peut pas travailler. Il ne peut pas cultiver. Il ne peut pas aller. Il ne peut pas faire commerce. Donc, c'est un véritable problème dans le sud de la Burkina. Le fleuve de la Bourouba amène le bonheur, mais plus de malheur. Avec l'onchocercose, sinon on a les poissons, on a l'eau, mais les gens n'ont pas la paix. Il y a l'onchocercose.
Il y a encore deux régions au Burkina qui sont toujours endémiques. La région des Cascades et celle du sud-ouest. Découvrons avec le docteur Wangrawa, directeur régional de la santé des Cascades, comment se mène la lutte contre l'onchocercose.
Il y a deux districts qui sont toujours endémiques, le district de Banfora et le district de Mangodara. Il y a 111 villages qui sont endémiques. Depuis 2011, le traitement à l'ivermectine sous directive communautaire est mis en œuvre dans la région. Et depuis ce temps-là, les couvertures thérapeutiques sont bonnes.
Le ministre tchadien de la Santé, par ailleurs, président du comité régional OMS, assure que la lutte doit continuer, suivant le ministre Hassan Gueadoum.
Je crois que cette célébration est prévue à beaucoup d'autres célébrations, n'est-ce pas? Comme par exemple, pourquoi pas la polio, qui est pratiquement en voie d'éradication. Il reste trois derniers pays, dont le Tchad. Et le Tchad vient d'être certifié indemne de la polio il y a déjà deux semaines. Et demain, pourquoi pas l'éradication du paludisme. Le sida également, la prévalence a beaucoup baissé en Afrique. Et je crois qu'il faut encourager les États à aller dans le sens d'amélioration des conditions sanitaires des populations africaines.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le réseau social américain Facebook a annoncé en fin de semaine avoir réussi le premier test à taille réelle de son drone Aquila. Facebook ambitionne de l'utiliser comme relais pour apporter Internet dans les zones reculées de la planète, dont des millions de personnes en Afrique subsaharienne. Les précisions de John Linden.
Nous faisons voler une version réduite à 1/5 d'Aquila depuis plusieurs mois, mais c'était la première fois que nous faisions voler l'appareil de taille réelle, a déclaré Jay Parikh, ingénieur en chef chez Facebook, dans un message publié sur le site du groupe. Une porte-parole a précisé que le test avait eu lieu au Yuma Proving Ground, une base militaire de tests située dans l'Arizona. Le projet de Facebook consiste à créer tout un réseau de ces drones solaires en les plaçant à haute altitude de manière géostationnaire et en utilisant des lasers pour les relier entre eux et avec des équipements de communication au sol ou des satellites. Alphabet, la maison mère du géant Internet Google, explore une idée similaire, mais avec des montgolfières. Pour son premier test à taille réelle, Aquila a volé à petite altitude pendant 96 minutes, trois fois plus longtemps que ce qui était prévu au départ, a détaillé Facebook. Facebook veut étendre la couverture d'Internet aux quelques 4 milliards de personnes, soit 60% des habitants de la planète qui n'y ont, selon lui, toujours pas accès, en particulier dans les pays émergents.
La technologie ne finit jamais de nous surprendre, mais aussi de nous rendre la vie moins difficile. Prenez cet exemple. Si vous êtes à Beyrouth, vous êtes en voiture ou à moto, et vous voulez vous offrir un lavage de votre véhicule, eh bien, vous n'avez qu'à vous garer là où vous êtes, prendre votre téléphone portable, connecter à Internet, et faire venir un nettoyeur, tout simplement grâce à Blink My Car, une nouvelle application mobile mise au point par deux entrepreneurs libanais. Morgan Guériec nous en dit davantage.
Un jour, dans une file d'attente d'une station-service au Liban, Rami Halal et Ralph Chouehri ont décidé de concevoir une application de sorte que vous pouvez commander un service de lavage de votre véhicule. Le cofondateur Rami Halal. Nous étions surpris de voir la méthode traditionnelle de lavage lorsque vous êtes dans un embouteillage ou dans de longues files d'attente. Alors, pourquoi ne pas laver la voiture chez vous? Avec l'application Blink My Car, un nettoyeur peut être au service de votre voiture en 15 minutes et la laver en peu de temps, pratique et économique. Un lavage typique de voiture utilise 300 litres d'eau, mais Chouehri soutient que la méthode de lavage spéciale à la main de son entreprise n'utilise presque pas d'eau. La vision de Blink My Car est que le lavage ne devrait pas utiliser l'eau de ceux qui ont besoin de boire, de prendre bain ou de faire quelque chose de plus important que le lavage d'une voiture. Le service coûte environ 10 $. Et les eaux et les deux entrepreneurs disent que le lavage est beaucoup plus rapide.
Au Festival aéronautique international cette année à Farnborough en Angleterre, l'une des attractions était un avion américain, un avion de chasse avec un moteur ultra moderne, présenté comme le plus puissant du monde. En dépit du prix élevé de plus de 100 millions de dollars, l'avion de chasse F-35 de Lockheed Martin est recherché par de nombreuses armées dans le monde entier, comme nous le dit Chérubin Dorsil.
Bien que son décollage vertical et son atterrissage n'aient rien de nouveau, il est toujours impressionnant de voir un avion de 27 tonnes sur une piste. Considéré comme l'arsenal militaire le plus cher dans l'histoire, le F-35 de Lockheed Martin, également connu sous l'appellation Lightning II, a souffert de ses coûts exorbitants et des retards dans sa fabrication, mais bénéficie désormais de fonctionnalités qui le placent comme l'avion de chasse le plus avancé au monde. Il est le summum de la technologie moderne. Il met des capteurs, des systèmes et l'intérieur de cet appareil d'une manière qu'aucun autre avion n'a pu faire auparavant. L'une des principales caractéristiques du chasseur F-35 est son moteur à réaction fabriqué par Pratt & Whitney qui génère plus de 18 tonnes de poussée et peut piloter l'avion de 1,6 à près de 2000 km par heure. Vous avez un moteur qui a également la possibilité de générer une poussée supersonique et possède aussi des caractéristiques de furtivité, ainsi que d'être en mesure d'adapter et d'effectuer l'atterrissage de court décollage ou des opérations d'atterrissage vertical. Le F-35 est disponible en trois versions. Deux sont en mesure de décoller et d'atterrir verticalement. Le Fighter a été mis en service par l'armée américaine en 2015, tandis que Lockheed Martin construit des avions supplémentaires pour au moins 10 clients étrangers en attendant la vente de 3000 unités d'ici à 2023. Les exigences de la guerre moderne font du F-35 une machine extrêmement complexe qui a besoin constamment de révision et doit être mise à jour tout au long de sa durée d'utilisation prévue jusqu'en 2070.
C'est ici que nous allons clore ce numéro de Carrefour. Merci aux collègues qui m'ont aidé à le préparer. Michel Joseph était à la réalisation, Jacques Aristide au micro. Je vous remercie de nous avoir suivis. Très bonne écoute sur VOA Afrique. À très bientôt.